En ce temps-là, Jésus revint à Capernaüm, et la nouvelle se répandit qu'il était à la maison. Aussitôt, il s'y rassembla tant de monde qu'il n'y avait plus de place, même devant la porte, et il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par quatre hommes, et ne pouvant s'approcher de lui à cause de la foule, ils défirent le toit au-dessus de l'endroit où se trouvait Jésus, et par l'ouverture firent descendre le grabat où gisait le paralytique. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés te sont remis. » Or, il y avait là dans l'assistance quelques scribes qui se disaient en leur cœur, « Comment celui-ci peut-il proférer de telles blasphèmes? Qui peut remettre les péchés sinon Dieu seul ?» Mais Jésus, pénétrant en son esprit leurs intimes pensées, leur dit aussitôt, « Pourquoi de telles pensées dans vos cœurs ? Quel est le plus facile de dire aux paralytiques, « Tes péchés te sont remis » ou de dire, « Lève-toi, prends ton grabat et marche ?» Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur terre le pouvoir de remettre les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton grabat et retourne chez toi. Aussitôt, il se leva et prenant son grabat, il sortit en présence de tous, au point que les gens furent tous saisis de stupeur et rendaient gloire à Dieu en disant, « Jamais nous n'avons vu rien de pareil. »
Écoutez bien toutes les paroles très pédagogiques d'une part et puis très riches d'autre part du canon eucharistique de Saint Basile le Grand. Saint Grégoire Palamas est nommé dans la tradition chrétienne orthodoxe comme l'héritier des saints et grands pères de l'Église du premier millénaire jusqu'au XIVe siècle, et Saint Grégoire Palamas. Donc nous avons là une grande tradition. Tradition veut dire ici que des personnes ont été appelées par le Christ, se sont mises en mouvement, ont écouté la parole, l'ont mise en pratique. Ils ont donc une expérience de l'Évangile, une expérience de la rencontre du Christ, et par là, porte le témoignage d'une manière vivante de cette parole qui a été entendue, mise en pratique, dont ils sont les témoins. Et cette génération de témoins, nous appelons les pères de l'Église. Un grand axe s'est manifesté dans cette tradition, élaborée à partir du 2e, 3e, 4e siècle, jusque maintenant. Nous avons encore des témoins et des héritiers de cette grande tradition aujourd'hui. Et nous avons la grande responsabilité de transmettre cette tradition, donc transmission de l'expérience vécue, de ce qui a été compris, entendu, mémorisé et inspiré chez les pères de l'Église, pour que les générations suivantes puissent à nouveau accéder à une compréhension, mais aussi à l'esprit de l'Évangile, tant il est vrai que le Christ nous dit que le disciple est celui qui devient un même esprit avec Jésus le Christ. Un même esprit. Donc la dimension de l'esprit nous renvoie à la dimension du souffle. Le Christ dit lui-même, il est avantageux que je m'en aille afin que l'Esprit Saint vienne. Lui vous conduira dans toute la vérité et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc c'est l'Esprit Saint qui rend vivant la parole. C'est l'Esprit Saint qui rend vivant la présence de Christ en nous. C'est par l'Esprit Saint que nous pouvons progresser. Ainsi, dans le baptême, c'est un baptême d'eau et d'esprit. Puis nous recevons le Saint-Crème, qui est l'onction de l'esprit. Donc nous sommes ici dans le souffle de l'esprit, et cette transmission dit toute l'action de l'Esprit Saint au cours des générations chrétiennes, jusqu'à aujourd'hui, pour sauvegarder l'essentiel de l'Évangile. Cet essentiel, il est manifesté sur deux ou trois registres. Premièrement, Jésus, vrai Dieu et vrai homme, participant pleinement de la divinité, participant pleinement de l'humanité, nous invite à devenir, nous les humains, pleinement participants de la divinité, donc de Dieu lui-même. Donc, récapitulé dans cette très belle formule patristique, Dieu s'est fait homme pour que l'être humain devienne participant de la vie divine. C'est ça notre vocation. C'est ça l'acte de la divino-humanité. Deuxièmement, Dieu, selon les pères, il est transcendant. Comme il est transcendant, nous ne pouvons pas le réduire à des concepts. Il échappe à toute saisie conceptuelle, à toute saisie intellectuelle. Le fait qu'il échappe nomme ici le mystère. Le mystère de la racine grecque must, qui signifie muet, pas muet parce qu'on est empêché de parler, mais muet par sidération. On est sidéré devant la majesté divine, et donc on ne peut rien en dire. Le mystère signifie ce dont on ne peut rien dire, tellement ça dépasse les capacités de notre saisie intellectuelle. Ainsi, Dieu est transcendant, et Saint-Grégoire Palamas va beaucoup insister sur cette transcendance de Dieu, développée dans ce qu'on appelle la théologie apophatique. Tout ça, je le rappelle, pour les anciens, mais c'est aussi pour ceux qui se préparent au baptême, qui sont ici. Voilà, c'est en même temps une catéchèse que les homélies. Donc ici, théologie apophatique, ça veut dire qu'on ne promet pas de dire qui est Dieu, mais nous sommes en chemin vers le mystère de Dieu, vers ce qui nous échappe, de commencement en commencement, vers des commencements qui n'ont jamais de fin. Comme ça nous échappe, on ne pourra jamais toucher Dieu, mais on pourra devenir de plus en plus intime avec lui dans une ascension asymptotique qui fait qu'on sera de plus en plus intime, et en même temps Dieu restera Dieu et l'être humain restera l'être humain, et nous serons en dialogue divino-humain. Donc théologie apophatique qui dit ici une théologie du mystère et le fait d'interdire que nous fassions de Dieu une idole, c'est-à-dire une représentation que nous puissions élaborer en nous-mêmes par des concepts ou des représentations. Troisième point développé chez Saint-Grégoire Palamas, c'est toute une théologie de la transfiguration. Théologie de la transfiguration, c'est la théologie de la lumière. Théologie de la lumière, qui est une théologie qui est sublime, car elle nous fait échapper à toute catégorie moraliste. Vous savez, nous avons traduit dans la tradition chrétienne au cours des siècles le fait que nous avons ramené les paroles de Christ, ramené la compréhension de l'Évangile au bien et au mal. Mais dans la Bible, il n'est pas question de bien et de mal. Il est question de lumière et de ténèbres, ou de vie et de mort. Nous sommes sur un autre registre. Maintenant, pour parler de la lumière, je dois en référer au monde angélique. Puisque vous avez bien entendu l'Épître, dans l'Épître aux Hébreux, je vous invite à relire premier chapitre de l'Épître aux Hébreux. Cet après-midi, il faut relire le premier chapitre de l'Épître aux Hébreux. Vous verrez qu'il est dit dans ce texte « Auquel des anges, Dieu a-t-il dit, tu es mon fils ?» Donc il n'a pas dit aux anges, tu es mon fils, il dit à l'être humain, tu es mon fils. Et il appelle l'être humain à devenir fils de Dieu. Pas aux anges. Les anges sont des serviteurs. Nous, nous sommes appelés à devenir fils. Nous ne sommes pas encore, mais grâce à l'aide des anges, nous pouvons le devenir. Ainsi, nous avons à franchir les hiérarchies angéliques pour accéder à cette dimension de filiation divine. Chemin accompli par Marie, qu'on chante, « Toi plus vénérable que les chérubins et plus glorieuse incomparablement que les séraphins. » Donc ça veut dire plus incomparable que les plus grandes hiérarchies angéliques, pour dire que Marie est le premier homme, si vous permettez, premier homme déifié. Une femme qui accomplit humainement ce que le Christ est venu faire pour nous. Et les anges sont ceux qui reçoivent la lumière divine, qui la transmettent, mais au fur et à mesure, ils la filtrent, parce que les hiérarchies qui sont en dessous ne peuvent pas assumer l'intensité que eux ils reçoivent. Donc, ils filtrent au fur et à mesure, et tout en bas, il y a l'être humain qui reçoit une énergie filtrée parce qu'il ne pourrait pas supporter l'énergie divine en direct. Et tout le chemin spirituel consiste en une dynamique d'éveil de conscience, en dynamique d'ouverture du cœur, pour de plus en plus recevoir la lumière. Et plus nous recevons la lumière, plus nous participons de la lumière. Et donc, Grégoire Palamas souligne une théologie de la transfiguration, où dans la transfiguration, vous voyez dans la phrase qui est là-bas, il y a le Christ qui apparaît avec Moïse et Élie, et les apôtres tombent à la renverse. Et nous chantons le 6 août à la transfiguration, tu t'es montré à tes disciples, dans une expérience de lumière, tu t'es montré à tes disciples, autant qu'ils pouvaient le supporter. Donc nous pouvons accéder à des différentes intensités de lumière à mesure que nous pouvons le supporter. Et pour ça, nous avons tout un chemin d'ascension à vivre, mais à mesure que nous pouvons supporter, ça veut dire que nous avons à acquérir pour assumer une intensité de lumière des structures psychiques et spirituelles pour pouvoir assumer autant qu'ils pouvaient le supporter. Et c'est ça le chemin, c'est grandir en maturité humaine et spirituelle. C'est grandir en capacité d'accueillir la lumière, c'est grandir en capacité d'accueillir le Christ, et finalement c'est un chemin de croissance que nous vivons de degré en degré jusqu'à aller vers Dieu. C'est cela qui est essentiel pour notre vie. Ce qui veut dire concrètement que chaque instant, chaque moment doit être l'occasion d'une croissance spirituelle. Nous n'avons pas à être mobilisés par les affaires du monde, mais au sein des réalités de ce monde, à faire de chaque événement, de chaque épreuve, des occasions d'éveil de conscience, des occasions d'ouverture intérieure, un moment d'accueil de ce que Dieu nous signifie à travers les épreuves, pour peu à peu que notre cœur se dilate, que peu à peu notre âme puisse s'épanouir, et que peu à peu, au sein d'une réalité existentielle dans le chronos, nous puissions vivre un chemin spirituel dans la verticale. Ainsi, il a été dit au premier siècle, les chrétiens sont dans ce monde, mais ne sont pas de ce monde. Ils sont bien dans la réalité du monde, mais leur cœur est ailleurs, il est tourné vers Dieu, et et il est sans cesse en progression vers l'intimité divine. Voilà ce que nous propose la tradition, voilà ce que nous propose Sarivar Panamas, voilà aussi ce en quoi nous assistent les anges et en quoi ils essayent de nous porter vers cette élévation pour que nous fassions de cette traversée existentielle non pas un moment de galère extérieure, mais un moment de naissance intérieure à Dieu, afin qu'avec les anges, nous puissions célébrer sa gloire, Père, Fils et Saint-Esprit.
Amen.
Amen.